Aristote, Métaphysique, livre 11, chapitre 8 à 12. Chapitre 8. L'être en général s'entend de plusieurs manières, et d'abord comme être accidentel. Parlons donc de l'être accidentel. Il est de toute évidence qu'aucune des sciences que nous avons énumérées ne traite de l'accident. L'art de bâtir ne s'occupe nullement de ce qui peut arriver à ceux qui se serviront de la maison, de savoir, par exemple, si l'habitation de la maison leur sera désagréable ou leur fera plaisir. De même pour l'art du tisserand, pour celui du cordonnier, de même pour l'art culinaire. Chacune de ces sciences s'occupe uniquement de l'objet qui lui est propre, c'est-à-dire de son but propre. Aucune ne considère un être en tant que musicien, en tant que grammairien. Des raisonnements comme celui-ci. Un homme est musicien, il devient grammairien, donc il doit être à la fois l'un et l'autre. Mais il n'était pas l'un et l'autre auparavant. Or, ce qui n'existe pas de tout temps est devenu. Donc cet homme est devenu musicien et grammairien simultanément. De pareils raisonnements, dis-je, ne sont jamais ce que cherche une science reconnue par tous comme telle. Il n'y a que la sophistique qui en fasse son objet. Elle seule, la sophistique, traite de l'accident. Aussi, le mot de Platon n'est-il pas sans justesse? La sophistique, a-t-il dit, roule sur le non-être. On verra clairement que toute science de l'accident est impossible si l'on examine avec attention la nature même de l'accident. Parmi les êtres, il en est qui existent toujours et nécessairement, non pas de cette nécessité qui n'est que l'effet de la violence, mais de celle-là qui est le fondement des démonstrations. D'autres choses ne sont qu'ordinairement. D'autres, enfin, n'existent ni ordinairement, ni toujours et de toute nécessité, mais seulement suivant les circonstances. Qu'il fasse froid pendant la canicule, par exemple, c'est ce qui n'arrive ni toujours, ni nécessairement, ni dans le plus grand nombre des cas. C'est ce qui peut quelquefois arriver. L'accident est donc ce qui n'arrive ni toujours, ni de toute nécessité, ni dans le plus grand nombre des cas. Voilà, selon nous, ce que c'est que l'accident. Quant à l'impossibilité d'une science de l'accident, elle est par là même évidente. En effet, toute science s'occupe ou de ce qui est éternellement, ou de ce qui est ordinairement. Or, l'accident n'est ni éternellement ni ordinairement. Il est évident d'ailleurs que les causes et les principes de l'être accidentel ne sont pas du même genre que les causes et les principes de l'être en soi. Sans cela, tout serait nécessaire. En effet, si telle chose existant, telle autre chose existe, et que celle-là existe aussi, telle autre existant, et qu'il en soit ainsi, non pas selon les circonstances, mais nécessairement, l'effet produit nécessairement doit être lui-même nécessaire. Et l'on arrive ainsi jusqu'au dernier effet. Or, ce dernier effet, c'est l'accident. Tout serait donc alors nécessaire. Et c'est là la suppression absolue de l'action des circonstances sur les êtres qui deviennent, et de leur possibilité de devenir et de ne devenir pas. Conséquence à laquelle on arrive encore, même en supposant que la cause n'est pas, mais devient. Car alors, tout deviendra nécessairement. Il y aura demain une éclipse. Si telle chose a lieu, et telle chose aura lieu à condition qu'une autre aura lieu elle-même, laquelle deviendra à une autre condition encore. Et si, d'un temps limité, si, de ce temps qui sépare demain de l'instant actuel, on retranche sans cesse du temps, comme nous venons de le faire. On finira par arriver à ce qui est présentement. Par conséquent, l'existence de ce qui est présentement entraînera nécessairement la production de tout ce qui devra suivre. Par conséquent, tout devient nécessairement. Pour l'être qui signifie le vrai et non plus l'accident, il consiste uniquement dans ce que la pensée affirme ou nie du sujet. Il est une modification de la pensée même. Aussi, ne cherche-t-on pas les principes de cet être, mais ceux de l'être extérieur et indépendant. Quant à l'autre être, je veux dire l'être accidentel, c'est ce qui n'est pas nécessaire, c'est l'indéterminé. Or, il n'y a aucun ordre dans les causes de l'être accidentel. Et d'ailleurs, elles sont en nombre infini, tandis que la cause finale est le fondement de tout ce qui se produit dans la nature ou provient de la pensée. Le hasard, c'est toute production accidentelle, soit de la nature, soit de la pensée. Le même rapport qu'il y a entre l'être en soi et l'être accidentel existe aussi entre les causes de ces êtres. Le hasard est la cause accidentelle de ce qui se fait par intention et dans un certain but. Le hasard et la pensée se rapportent donc au même objet, n'y ayant pas de choix sans pensée. Mais les causes qui produisent les effets attribués au hasard sont indéterminées, d'où il suit que le hasard est impénétrable à la raison humaine, qu'il n'est qu'une cause accidentelle, ou pour mieux dire, qu'il n'est cause de rien. Un heureux, un fâcheux hasard, c'est l'arrivée d'un bien ou d'un mal, de grands biens ou de grands maux. Voilà la prospérité et l'adversité. De même que nul être accidentel n'est antérieur à un être en soi. De même, il y a postériorité pour les causes de l'être accidentel. Admettons que le ciel a pour cause le hasard ou un concours fortuit, il y aurait encore une cause antérieure. C'est l'intelligence et la nature. Chapitre 9. Parmi les êtres, les uns sont en acte seulement, les autres seulement en puissance, d'autres en puissance et en acte tout à la fois. Il y a enfin l'être proprement dit, l'être sous le rapport de la quantité et sous le rapport des autres catégories. Quant au mouvement, il n'existe pas en dehors des choses. C'est toujours relativement à quelqu'un des points de vue de l'être que s'opère le changement. Et le changement diffère non seulement selon les différentes catégories, mais encore dans la même catégorie. Chaque catégorie est double dans les êtres. Pour les sens, par exemple, il y a la forme de l'objet et la privation de la forme. Pour la qualité, le blanc et le noir. Pour la quantité, le complet et l'incomplet. Enfin, l'objet monte ou descend. Il est léger ou lourd s'il s'agit de la vitesse. Il y a donc autant d'espèces de mouvement et de changement que l'être a lui-même d'espèce. Dans chaque genre d'être, il y a l'être en puissance et l'être en acte. J'appelle mouvement l'actualité du possible en tant que possible. Et voici la preuve de l'exactitude de cette définition. C'est quand il y a possibilité de construction, passant à l'acte en cette qualité même, que nous disons qu'il y a acte en tant qu'il y a construction. Et c'est là ce qui constitue la construction. De même, pour l'enseignement, la guérison d'une maladie, la rotation, la marche, le saut, la dégénérescence, la croissance. Il s'ensuit qu'il y a mouvement pendant la durée de cette sorte d'actualité, non auparavant ni après. Et le mouvement est l'actualité de ce qui est en puissance. Quand l'actualité se manifeste, non pas en tant que l'être est lui-même, mais en tant que mobile. Et voici ce que j'entends par « en tant que mobile ». L'airain est une statue en puissance. Toutefois, l'actualité de l'airain en tant qu'airain n'est pas le mouvement qui produit la statue. La notion de l'airain n'implique pas la notion d'une puissance déterminée. S'il y avait entre ces notions identité absolue, essentielle, alors l'actualité de l'airain serait un certain mouvement. Mais il n'y a pas identité. C'est ce que prouve l'examen des contraires. La puissance de se bien porter et celle d'être malade ne sont pas la même chose, sans quoi la santé et la maladie seraient identiques. Et pourtant, le sujet de la santé et celui de la maladie ne sont qu'une seule et même chose, que ce soit les humeurs ou le sang. Puisqu'il n'y a pas identité dans le cas en question, et pas davantage entre la couleur et l'objet visible, il s'ensuit que l'actualité du possible en tant que possible constitue le mouvement. Voilà ce que c'est que le mouvement. Et c'est pendant la durée de cette sorte d'actualité que l'objet se meut, et non point auparavant ni plus tard. Cela est de toute évidence. Tout objet peut tantôt être, tantôt n'être pas en acte. Ainsi, d'un côté, ce qui peut être construit en tant que pouvant être construit, de l'autre, l'actualité de ce qui peut être construit en tant que pouvant être construit. C'est là la construction. La construction est ou bien l'actualité même ou bien la maison. Mais quand c'est une maison, la possibilité de construire n'existe plus. Ce qui pouvait être construit est construit déjà. Il faut donc que l'acte véritable soit dans ce cas une construction. Or, la construction est un mouvement. Même raisonnement pour les autres mouvements. Ce qui prouve que nous ne nous sommes point trompés, ce sont les systèmes des autres philosophes sur le mouvement et la difficulté qu'ils éprouvent à le définir autrement que nous n'avons fait. Il serait impossible de le placer dans un autre genre que celui que nous lui avons assigné. On le voit assez à leurs paroles. Il en est qui appellent le mouvement une diversité, une inégalité, le non-être, toute chose qui n'implique pas de nécessité, le mouvement. Le changement ne se ramène pas plus à ses principes qu'à leurs opposés, et il n'en sort pas davantage. Ce qui fait que c'est au principe négatif qu'on le ramène, c'est que le mouvement semble quelque chose d'indéfini. Or, les principes qui composent la série négative sont indéfinis parce qu'ils indiquent la privation, tandis que ni l'essence ni la qualité ne sont des principes indéfinis, ni aucune des autres catégories. La cause pour laquelle le mouvement semble indéfini, c'est qu'on ne peut le ramener ni à la puissance, ni à l'acte des êtres, car ni la quantité en puissance ne se meut nécessairement, ni la quantité en acte. Le mouvement est donc, ce semble, une actualité, mais une actualité imparfaite, et la cause en est que la puissance en passant à l'acte est une puissance imparfaite. Voilà pourquoi il n'est pas facile de concevoir la nature du mouvement. On ne pouvait en effet le ramener qu'à la privation, ou à la puissance pure et simple, ou à l'acte pur et simple. Or, aucun de ces principes ne peut évidemment le constituer. Reste donc ce que nous avons dit, savoir que le mouvement est une actualité et n'est pas une actualité. Chose difficile à comprendre, mais possible du moins. Il est clair, d'ailleurs, que le mouvement existe dans l'objet mobile, car le mouvement est l'actualité de l'objet mobile produite par le moteur. De plus, l'actualité du moteur ne diffère pas de l'actualité du mobile. Il faut, pour qu'il y ait mouvement, qu'il y ait actualité de l'un ou de l'autre. Or, la puissance du moteur, c'est le principe du mouvement. Son actualité, c'est ce principe produisant le mouvement. Mais ce mouvement, c'est l'actualité même de l'objet mobile. Il n'y a donc qu'une actualité unique pour l'un et pour l'autre. Il y a du reste la même distance de 1 à 2 que de 2 à 1, du bas en haut que du haut en bas, sans qu'il y ait pourtant unité d'être entre ces choses. Tel est le rapport du moteur avec l'objet en mouvement. Chapitre 10. L'infini est, ou ce qu'on ne peut parcourir parce qu'il est dans sa nature de n'être point parcouru, au même titre que le son est invisible, ou ce qu'on ne peut achever de parcourir, ou bien ce qu'on ne parcourt que difficilement, ou enfin ce qui n'a ni terme ni limite, quoique de sa nature susceptible d'en avoir. Il y a encore l'infini par addition ou par soustraction, ou par addition et soustraction tout à la fois. L'infini ne saurait avoir une existence indépendante, être quelque chose par lui-même, et en même temps être un objet sensible. En effet, s'il n'est ni une grandeur, ni une chose multiple, s'il est l'infini substantiellement et non pas accidentellement, il doit être indivisible, tout divisible étant ou une grandeur ou une multitude. Mais s'il est indivisible, il n'est pas infini, si ce n'est au même titre que le son est indivisible. Or, ce n'est jamais de cet infini qu'on parle. Ce n'est pas de celui-là que nous nous occupons. C'est de l'infini sans limite. Comment, d'ailleurs, est-il possible que l'infini existe en soi, quand le nombre et la grandeur, dont l'infini n'est qu'un mode, n'existent pas en eux-mêmes? Du reste, si l'infini est accidentel, il ne saurait être en tant qu'infini l'élément des êtres, pas plus que l'invisible n'est l'élément du langage, nonobstant l'invisibilité du son. Enfin, l'infini ne peut évidemment exister en acte, car alors, toute partie quelconque prise dans l'infini serait elle-même infinie, y ayant identité entre l'essence de l'infini et l'infini, si l'infini a une existence substantielle et n'est point l'attribut d'un sujet. L'infini sera donc ou bien indivisible ou bien divisible, susceptible d'être partagé en infini. Or, un grand nombre d'infinis ne peuvent être le même infini, car l'infini serait une partie de l'infini, comme l'air est une partie de l'air, si l'infini était une essence et un principe. L'infini ne peut donc être partagé, il est indivisible. Ce qui existe en acte ne saurait être infini, car il y a nécessairement quantité dans ce qui existe en acte. L'infini est donc accidentel. Mais nous avons dit qu'alors, il ne pouvait être un principe, que le principe, c'est ce dont l'infini est un accident, l'air, le nombre pair. Telles sont les considérations générales relatives à l'infini. Nous allons montrer que l'infini ne fait point partie des objets sensibles. Un être limité par des plans, voilà la notion du corps. Il n'y a donc pas de corps infini, soit sensible, soit intelligible. Le nombre lui-même, quoique indépendant, n'est pas infini, car le nombre, car tout ce qui a un nombre, peut se compter. Si nous passons aux objets physiques, voici la preuve qu'il n'y a pas de corps infini. Ce ne pourrait être ni un corps composé, ni un corps simple. Ce n'est pas un corps composé dès lors que que les corps composants sont en nombre limité. Il faut en effet qu'il y ait dans le composé équilibre entre les éléments contraires, aucun d'eux ne doit être infini. Si de deux corps constituants, l'un était d'une façon quelconque inférieur en puissance, le fini serait absorbé par l'infini. Il est d'ailleurs impossible que chacun des éléments soit infini. Le corps est ce qui a dimension dans tous les sens, et l'infini, ce dont la dimension est sans borne. S'il y avait un corps infini, il serait donc infini dans tous les sens. L'infini ne saurait pas être davantage un corps un et simple, ni, comme quelques-uns le prétendent, quelque chose en dehors des éléments, et d'où proviennent les éléments, il n'existe pas de pareil corps en dehors des éléments, car tous les corps se résolvent, et voilà tout, dans les éléments d'où ils proviennent. Évidemment, il n'y a pas en dehors des corps simples un élément tel que celui-là, le feu par exemple, ou tout autre élément, car il faudrait qu'il fût infini, pour que le tout, même fini, pût être ou devenir cet élément, comme dans le cas dont parle Héraclite. Le tout, dit-il, devient feu dans certaines circonstances. Même raisonnement pour cette unité que les physiciens placent en dehors des éléments. Tout changement se fait du contraire au contraire, du froid au chaud par exemple. Puis, le corps sensible occupe un lieu déterminé, et c'est le même lieu qui contient le tout et ses parties. Le tout et les parties de la terre sont dans le même lieu. Si donc le tout est homogène, ou il sera immobile, ou bien il aura un perpétuel mouvement. Mais la dernière supposition est impossible. Pourquoi irait-il en haut plutôt qu'en bas, ou dans une direction quelconque ? Si le tout était une masse de terre, par exemple, dans quel endroit pourrait-elle se mouvoir ou rester immobile? Le lieu que cette masse occupe, le lieu de ce corps infini, est infini. Elle le remplirait donc tout entier. Et comment en peut-il être ainsi? Quelle peut être dans ce cas l'immobilité? Quel peut être le mouvement? Y aurait-il immobilité dans toutes les parties du lieu? Il n'y aurait donc jamais de mouvement. Y aurait-il au contraire mouvement dans toutes les parties du lieu? Il n'y aurait donc jamais de repos. Mais s'il y a hétérogénéité dans le tout, les lieux sont entre eux dans le même rapport que les parties qu'ils contiennent. Et d'abord, il n'y a pas unité dans le corps qui constitue le tout, sinon unité par contact. Ensuite, ou le nombre des espèces du corps qui le composent est fini, ou bien il est infini. Or, il n'est pas possible que ce nombre soit fini. Sans cela, il y aurait des corps infinis, d'autres qui ne le seraient pas, le tout étant infini. Le feu, par exemple, le serait, ou bien l'eau. Or, une telle supposition, c'est la destruction des corps finis. Mais si le nombre des espèces de corps est infini, et s'ils sont simples, il y aura une infinité d'espèces de lieux, une infinité d'espèces d'éléments. Or, cela est impossible. Le nombre des espèces du lieu est fini. Donc le nombre des espèces du corps qui composent le tout est nécessairement fini. En général, un corps ne saurait être infini. Et pas plus que les corps, le lieu qui contient les corps, puisque tout corps sensible est ou pesant ou léger. Le corps infini aurait un mouvement soit horizontal, soit de bas en haut. Mais ni l'infini tout entier ne saurait être susceptible d'un tel mouvement, ni la moitié de l'infini, ni une partie quelconque de l'infini. Comment établir la distinction et par quels moyens déterminer que ceci est le bas de l'infini, ceci le haut, la fin, le milieu. D'ailleurs, tout corps sensible est dans un lieu. Or, il y a 6 espèces de lieux. Où les trouver dans le cas de l'existence d'un corps infini? En un mot, s'il est impossible que le lieu soit infini, il est impossible que le corps le soit lui-même. Ce qui est dans un lieu est quelque part, c'est-à-dire qu'il est en haut ou en bas ou dans un des autres lieux. Or, chacun de ces lieux est lui-même une limite. Il n'y a pas d'identité entre l'infini dans la grandeur, l'infini dans le mouvement et l'infini dans le temps. Ce n'est pas là une seule et même nature. De ces 3 infinis, celui qui suit est dit infini par son rapport avec celui qui précède. C'est par son rapport avec la grandeur qui subit un mouvement, une altération, une augmentation, que le mouvement est dit infini. Le temps est infini par son rapport avec le mouvement. Chapitre 11. L'être qui change, ou bien subit un changement accidentel. C'est ainsi que le musicien se promène, ou bien a quelque chose en lui qui change, et c'est là le changement proprement dit. Tout changement partiel est dans ce dernier cas. On guérit le corps parce qu'on guérit l'œil. Enfin, il y a ceux dont le mouvement est essentiel et premier. Je veux parler de ce qui est mobile en soi. Même distinction au sujet du moteur. Il meut ou accidentellement, ou partiellement, ou absolument. Tout mouvement suppose un premier moteur, une chose mue, mue dans un certain temps, à partir d'un certain point, vers un certain but. Les formes, les modifications, les lieux qui sont la fin du mouvement des êtres qui se meuvent sont immobiles. Ainsi la science, la chaleur. Ce n'est pas la chaleur qui est un mouvement, c'est l'échauffement. Le changement non accidentel ne se rencontre pas dans tous les êtres, mais seulement dans les contraires et dans les intermédiaires, et dans les êtres pour lesquels il y a affirmation et négation. L'induction va confirmer ce que j'avance. Le changement est, dans les êtres qui changent, le passage ou bien d'un sujet à un sujet, ou bien de ce qui n'est pas sujet à ce qui n'est pas sujet, ou bien d'un sujet à ce qui n'est pas sujet, ou bien de ce qui n'est pas sujet à un sujet. Et j'appelle sujet ce qui se pose par l'affirmation. Il y a donc, de toute nécessité, 3 sortes de changements. Car le changement de ce qui n'est pas sujet à ce qui n'est pas sujet n'est pas un changement véritable. Il n'y a pas là de contraire. Il n'y a pas non plus affirmation et négation, n'y ayant pas d'opposition. Le passage de ce qui n'est pas sujet à l'état de sujet. Et dans ce cas, il y a contradiction. Ce changement, c'est la production. Production absolument parlant, au point de vue absolu, production déterminée s'il s'agit d'un être déterminé. Le changement d'un sujet en ce qui n'est pas sujet, c'est la destruction. Destruction absolument parlant, au point de vue absolu, destruction déterminée s'il s'agit d'un être déterminé. Si le non-être se prend dans plusieurs acceptions, et si l'être qui consiste dans la convenance ou la disconvenance de l'attribut avec le sujet ne peut se mouvoir, il en est de même de l'être en puissance, de l'être opposé à l'être proprement dit. Toutefois, il peut y avoir mouvement accidentel de ce qui n'est pas blanc ou de ce qui n'est pas bon. Le non-blanc peut être un homme, mais ce qui n'a absolument pas d'existence déterminée ne saurait jamais se mouvoir. Il est impossible en effet que le non-être soit en mouvement. Or, s'il en est ainsi, il est impossible que la production soit un mouvement, car ce qui devient, c'est le non-être. Ce n'est qu'accidentellement, sans nul doute, que le non-être devient. Il est vrai de dire, cependant, que le non-être est le fond de ce qui devient dans le sens propre de cette expression. De même pour le repos. Voilà donc des difficultés insurmontables. Ajoutez à cela que tout objet en mouvement est dans un lieu. Or, le non-être n'est pas dans un lieu. Sans cela, il serait quelque part. Donc, la destruction elle-même n'est pas un mouvement. En effet, le contraire au mouvement, c'est un mouvement ou le repos. Or, le contraire de la destruction, c'est la production. Puisque tout mouvement est un changement, puisque des trois changements que nous avons énumérés, le changement par la production et le changement par la destruction ne sont pas des mouvements, bien qu'elles soient le passage du contraire au contraire, il n'y a de toute nécessité qu'un seul changement véritable, c'est celui du sujet en un sujet. Les sujets sont ou contraire ou intermédiaire. La privation est le contraire du sujet. Et quelquefois, c'est une expression affirmative qui désigne la privation, comme dans ces exemples, nu, édenté, noir. Chapitre 12. Les catégories de l'être sont l'essence, la qualité, le lieu, l'action et la passion, la relation, la quantité, etc. Le mouvement présente donc nécessairement trois cas. Mouvement dans la qualité, mouvement dans la quantité, mouvement dans le lieu. Il n'y a pas de mouvement relativement à l'essence, parce qu'il n'y a rien qui soit le contraire de l'essence. Il n'y en a pas davantage dans la relation. S'il n'y a pas changement dans quelque chose qui n'est pas la relation elle-même, il n'y a pas changement dans la relation. D'où il suit que le mouvement dans les relations n'est qu'un mouvement accidentel. Il en est de même pour l'agent et l'être qui subit l'action, pour le moteur et l'être en mouvement, parce qu'il n'y a jamais mouvement de mouvement, ni production de production, ni en un mot, changement de changement. Il y aurait deux manières d'admettre un mouvement de mouvement. Ou bien ce serait comme mouvement dans un sujet, au même titre que l'homme est en mouvement, parce que de blanc qu'il était, il se change en noir. Ainsi, le mouvement subirait lui-même réchauffement, le refroidissement, le changement de lieu, l'augmentation. Or, cela est impossible. Le changement ne peut pas être un sujet. Ou bien encore, le mouvement de mouvement serait le changement qui opère le passage d'un sujet à un sujet d'espèce différente, comme le passage, pour l'homme, de la maladie à la santé. Mais cela même est impossible, sinon accidentellement. En effet, tout mouvement est le passage d'un état à un autre état. La production et la destruction même sont dans ce cas. Toutefois, les changements qui sont le passage de tel état à tel état opposé ne sont pas toujours des mouvements. Supposons donc qu'il y a changement de la santé à la maladie et en même temps passage de ce changement même à un autre changement. Il est évident sans doute que si l'être en question est malade, il peut subir en même temps un changement de quelque autre nature, car rien n'empêche qu'il ne soit alors en repos. Mais le changement est toujours d'une espèce déterminée. C'est toujours le passage d'un état à l'état opposé. L'état opposé à l'état de maladie, ce sera donc le retour à la santé. Mais ce n'est là qu'un changement accidentel, comme celui de l'être qui passe du souvenir à l'oubli, parce que l'être en qui s'opère cette sorte de changement passe tantôt de l'ignorance à la science, tantôt de la maladie à la santé. Enfin, s'il y a changement de changement, production de production, il faudra aller jusqu'à l'infini. Si le changement postérieur a lieu, de toute nécessité, celui qui est antérieur a lieu lui-même dans cette supposition. Admettons par exemple que le devenir, absolument parlant, devenait dans une certaine circonstance. Alors aussi cela devenait qui devenait absolument parlant. Par conséquent, ce qui devenait absolument parlant n'existait point encore. Ce qui existe, c'est ce qui devient quelque chose, ou ce qui déjà est devenu quelque chose. Or, cela même qui devenait absolument parlant devenait aussi dans une certaine circonstance, devenait quelque chose. Pourquoi donc n'existait-il point encore? Dans une série infinie, il n'y a pas de premier terme. Il n'y aura donc pas de premier changement, et pas davantage de changement qui se rattache au premier. Par conséquent, il n'est pas possible que rien devienne ou se meuve ou subisse un changement. Et puis, le même être subirait à la fois et les deux mouvements contraires, et le repos, et la production, et la destruction. De sorte que ce qui devient périt. Dans le chaos, ce qui devient deviendrait encore, car il n'existe plus, ni à l'instant même de ce devenir, ni après ce devenir. Et ce qui périt doit être. Il faut en outre que ce qui devient, ainsi que ce qui change, est une matière. Quel mouvement, quelle production aurait-elle donc, comme le corps sujet à des altérations, ou comme l'âme, une existence déterminée, et serait ce qui devient? Et quel serait ce but du mouvement? Le mouvement est le passage d'un sujet de tel état à tel autre état. Le but du mouvement ne doit donc pas être un mouvement. Comment donc sera-t-il un mouvement? L'enseignement ne saurait avoir pour but l'enseignement. Il n'y a donc pas de production de production. Ainsi, le mouvement ne s'opère ni dans les sens, ni dans la relation, ni dans l'action et la passion. Reste alors qu'il s'opère dans la qualité, dans la quantité, dans le lieu, car dans chacune de ces catégories, il y a contrariété. J'appelle ici qualité, non pas la qualité dans substance, car la différence serait elle aussi une qualité, mais la faculté d'être modifié, ce qui fait qu'un être est ou n'est pas susceptible d'être modifié. L'immobilité, c'est ce qui ne peut absolument pas se mouvoir, ce qui ne se met en mouvement qu'avec peine, après beaucoup de temps ou lentement. Ce qui, de sa nature, susceptible de mouvement, ne peut se mouvoir quand, où et comme il est dans sa nature de se mouvoir. Ce que j'appelle repos ne se dit que des êtres immobiles, car le repos est le contraire du mouvement et par conséquent doit être une privation dans le sujet. Réunion, relativement au lieu, se dit des êtres qui sont primitivement dans un seul et même lieu. Séparation, des êtres qui sont dans les lieux différents. Il y a contact quand il y a réunion des extrémités des objets dans le même lieu. L'intermédiaire est ce par où passe l'être qui change avant d'aboutir au dernier terme qu'atteint dans le changement que comporte sa nature, tout être dont le changement est continu. Le contraire, relativement au lieu, est ce qui est le plus éloigné en droite ligne. Conséquence se dit lorsque, entre un être et le principe après lequel il vient, soit par sa position, soit par sa forme, soit de toute autre manière déterminée, il n'y a pas d'intermédiaire faisant partie du même genre. C'est encore ce qui suit le conséquent. Ainsi, les lignes viennent après la ligne, les monades après la monade, la maison après une maison. Mais rien n'empêche qu'il y ait un intermédiaire d'un autre genre, car le conséquent est toujours à la suite de quelque chose, et à quelque chose qui lui est postérieur. L'unité n'est pas le conséquent de deux. Le premier jour de la lune n'est pas le conséquent du second. L'adhérence est le contact de ce qui suit. Tout changement a lieu dans les opposés, c'est-à-dire dans les contraires et dans la contradiction. Or, il n'y a pas de milieu entre les choses contradictoires. C'est donc évidemment entre les contraires que se trouve l'intermédiaire. La continuité est une sorte d'adhérence ou de contact. On dit qu'il y a continuité quand les limites par lesquelles deux êtres se touchent et se continuent l'un l'autre se confondent entre elles. On voit alors que la continuité se rencontre dans les êtres susceptibles de leur nature de devenir un être unique par contact et que la succession est le principe de la continuité. Le conséquent n'est point en contact, mais ce qui est en contact est conséquent. S'il y a continuité, il y a contact. Mais s'il n'y a que contact, il n'y a point encore continuité. Pour les êtres qui ne sont pas susceptibles de contact, il n'y a pas de connexion. Il suit de là que le point n'est pas la même chose que la monade, car les points sont susceptibles de se toucher, tandis que les monades ne le sont pas. Il n'y a pour elles que la succession. Il y a enfin un intermédiaire entre les points. Il n'y en a pas entre les monades. Fin du livre 11e.